Chapitre 14. Mademoiselle Revelstock, qui chaque matin triait elle-même son courrier, tendit à Nora un paquet recommandé. « Pour moi ?» fit Nora, surprise. Elle coupa les ficelles et découvrit une petite boîte de carton qui contenait un écrin. « Une bague !» dit Mademoiselle Revelstock, qui suivait l'opération avec intérêt. Nora ouvrit l'écrin et, d'étonnement, resta un instant bouche bée. Elle n'avait jamais vu de diamant aussi gros que celui-là. Bon, « Ce doit être une erreur !» dit-elle en dépliant un papier joint à l'envoi. Il n'y avait que quelques mots de la part d'un admirateur. Mademoiselle Revelstock examina le bijou d'un air connaisseur. « Fiche-toi, un diamant bleu ! En voilà pour 350 livres au bas mot ! Mais quel est cet admirateur inconnu ?» La jeune fille ne pouvait que secouer la tête. Indiscutablement, son nom et son adresse s'étalaient sur le paquet. C'était bien pour elle. « Quel fichu imbécile !» fit Mademoiselle Revelstock d'un ton amusé. « Qui ? Mais Monkford ! Que voulez-vous que ce soit ?»« Mais, dit Nora, je le connais à peine. » « Alors, ce doit être Henri. Oh, je vais téléphoner à l'un et à l'autre. »« Oh, je vous en prie, n'en faites rien. Je suis déjà assez ennuyé. Si seulement j'étais sûr que ce soit M. Monkford. »« Vous leur enverriez le bijou, n'est-ce pas ? Ma chère, j'ai eu l'occasion d'étudier les réactions amoureuses au cours de mes 60 ans. Je suis arrivé à cette conclusion. » Qu'une femme doit prendre tout ce qui lui est donné et le garder précieusement pour le jour où il lui sera beaucoup plus demandé en échange. Mais au fait, est-ce que ce ne serait pas votre étrange policier qui vous enverrait ce galant souvenir ? Oh, sûrement non, dit Nora, qui devint tout à coup très rouge. D'ailleurs, un simple détective n'est pas assez riche pour envoyer des diamants. N'oubliez pas que le père de Long possède une immense fortune. La jeune fille resta un instant silencieuse. Mais que vais-je faire de cela ? Mais le garder, répondit vivement Mademoiselle Revelstock. Ne portez pas la pierre si elle vous gêne tant. Mais elle vaut 350 livres. Et voilà 350 bonnes raisons pour lesquelles vous ne sauriez la renvoyer, même si vous saviez à qui. Une étrange impression se dégageait de cette vieille dame qui acceptait si calmement un fait accompli quel qu'il fût. Nora dut sortir pour faire quelques emplettes. À son retour, elle trouva sa maîtresse au salon auprès de M. Henri, le jeune avocat. « Ah, ce n'est pas lui qui vous a envoyé la bague, » dit Mademoiselle Revelstock. « Je préfère cela. » Nora se mit à rire et l'avocat prit un air embarrassé en demandant « Ce n'était pas votre anniversaire, Nora ?» Il avait la récente habitude de l'appeler par son prénom. Il y avait des moments où elle en éprouvait un peu d'irritation. Mademoiselle Revelstock reprit « Je parierai tout l'argent que je possède, c'est à Monkford que vous devez cette bague. Mais encore une fois, je ne peux même pas dire que je le connaisse. Bon, c'est un idéaliste. » Et changeant de voix, « Téléphonez à Hurstitz, voulez-vous, et demandez à Cravel si je puis avoir un deuxième appartement. Maître Henri viendra aussi. » De la sorte, il y aura dans l'hôtel au moins un joueur de golf. » La jeune fille passa dans la bibliothèque pour exécuter ses ordres, après quoi elle monta à sa chambre, ouvrit l'écrin et regarda la bague. Elle n'aurait pas été femme si elle n'avait pas éprouvé quelque satisfaction à tenir entre ses doigts un joyau aussi magnifique. Mais sa joie n'était pas exempte d'inquiétude. Elle eût aimé avoir la vie de Long. Après tout, Peut-être celui-ci lui eut-il conseillé, comme mademoiselle Revelstock, d'accepter ce que les dieux lui envoyaient et de mettre le bijou de côté jusqu'au jour où elle en découvrirait le donateur inconnu. Elle referma l'écrin et redescendit au salon. L'avocat était parti. « Henri est un bon garçon, » dit mademoiselle Revelstock. « Et vous pourriez trouver pire, Nora. » Elle dînait en ville ce soir-là, et par extraordinaire, sa secrétaire, qui partageait d'habitude toutes ses invitations, ne devait pas l'accompagner. « Allez donc au théâtre, vous choisirez quelque chose de gai, et vous ne penserez plus à tous vos mystères. » Nora dîna seule. Elle lisait le journal du soir lorsque la femme de chambre vint lui demander si elle voulait recevoir M. Long. Nora sursauta, rougissant et pâlissant à la fois. « Faites-le entrer au salon. » Elle rejoignit bientôt son visiteur et le trouva en contemplation devant un portrait de jolie femme en costume romantique. « Allô, » dit-il joyeusement. « Oh, je crois bien que cette peinture représente mademoiselle Revelstock à l'époque où la vie n'était que lisse et que rose. » Nora regarda le portrait, et pour la première fois, elle s'aperçut que c'était en effet celui de mademoiselle Revelstock quand elle était jeune fille. « J'espère que ne m'en voudra pas de cette visite, » dit-il. Nora secoua la tête. Il demanda, sans intention apparente, « Allez-vous souvent au théâtre ?»« Oh, rarement, surtout quand mademoiselle Revelstock me laisse seule. » « Non, je ne vous invite pas, » dit-il avec un regard amusé. « Bon, je voulais simplement savoir si vous aviez l'habitude de vous promener du côté de Berkeley Square la nuit. Mais je vois à votre air d'indignation qu'il n'en est rien. » Elle rit malgré elle. « Je ne sais même pas si je connais Berkeley Square. En tout cas, si j'y suis allé, c'est en ignorant. » « Quand vous dormiez, » dit-il, si gravement qu'elle le prit au sérieux, « m'aurait-on signalé à la police comme somnambule ?» L'homme semblait de très bonne humeur. « Oh, vous allez à Hercys la semaine prochaine, n'est-ce pas ? Jouez-vous au golf ? Quelle idée ! Je vais là uniquement pour accompagner mademoiselle Revelstock. » Elle ajouta plus bas, « Mais pourquoi ces questions ? Et quelles sont les dernières nouvelles, des terribles ?» Long soupira. « Oh, j'ai eu bien tort de vous parler si longuement de ces gens-là. Pourquoi, diable, suis-je allé mettre de telles pensées dans votre tête ?» De nouveau, il regardait le portrait de mademoiselle Revelstock. « Ah, elle était bien jolie, » murmura-t-il. « On comprend mal qu'elle n'ait pas trouvé à se marier. » Nora se demandait si elle parlerait de la bague. Tout à l'heure, elle avait été sur le point de le faire, et maintenant, elle n'osait plus s'y déterminer. Enfin, elle fit appel à son courage. « Est-ce qu'il vous arrive d'envoyer des cadeaux aux gens ?» Il leva les sourcils. « Moi, grand Dieu, non !» C'est une perte de temps et d'argent. Vous parlez de cadeaux de Noël et d'anniversaire, je suppose. Pourquoi ? La réponse de Long, nette et sans phare, avait imperceptiblement froissé Nora. Non, une idée qui me passait par la tête. Une idée, dit-il d'une voix devenue grave. Qui vous a envoyé un cadeau ? Personne, elle se sentait ridicule. Allons, fit Long avec un gentil sourire. Allez, montrez-le-moi. Pourquoi faire ? Elle avait prononcé ces mots sans s'apercevoir qu'ils étaient un aveu. Parce que j'aime voir les cadeaux que reçoivent les jeunes filles qui sont mes amies. Oh, je ne suis pas encore votre amie, fit-elle avec un brin de coquetterie. Je ne comprends pas en quoi cela peut vous intéresser. Allez, je vous en prie. Elle céda enfin et alla chercher l'écrin que l'on examina en s'approchant de la fenêtre. Qui vous l'a envoyé ?
Je ne sais pas. C'est arrivé ce matin par la poste.
Et Mademoiselle Revelstock a-t-elle une idée ?
Oh, elle croit que cela vient peut-être d'un de ses amis, un homme que je n'ai vu qu'une fois.
Monkford. Il examina la bague avec soin, la tournant et la retournant entre ses doigts, regardant à l'intérieur du cercle d'or, espérant trouver quelques marques. Vous l'avez essayé ?
Elle n'y avait pas songé.
Il prit sa main et tenta de glisser la bague qui s'adaptait exactement à l'annulaire. Il remarqua. Vous voyez que le cercle a été coupé pour que la mesure fût exacte.
Oh non, c'est pas Monkford. Ou du moins, je ne le crois pas.
Monkford est un être assez singulier, et même le détective qui le surveille depuis quelque temps ne peut prétendre connaître les secrets de son cœur. D'ailleurs, le policier le plus habile ne découvre pas facilement les réactions d'un homme vis-à-vis de la femme qu'il aime. Non, il est plus facile de deviner les professions des gens qui passent dans la rue que de définir l'état d'esprit d'un ami intime à l'égard de sa femme. Les yeux baissés, Long réfléchissait. Ainsi, répéta-t-il encore, vous êtes bien décidé à aller au Hertz's. Mais comment y serez-vous logé ?
Oh, je ne sais pas encore, Mlle Revelstock se fait généralement réserver une des meilleures appartements.
Oh, j'aurais dû voir cela, dit-il pensivement. Mais il n'y a pas de temps perdu. Qui vous accompagne encore ?
Personne. Ah, si, Monsieur Henry, l'avocat. Il passera là-bas une journée.
Pas d'autres ? Elle secoua la tête. Crayley est-il des amis de Mademoiselle Revelstock ?
Oui, certes.
Il y sera ?
Oh, oui, il y sera.
Long regarda longuement la jeune fille. Moi aussi, j'y serai. Je crois même que cette petite partie de plaisir va me donner beaucoup de distractions. La porte s'ouvrit à ce moment et au grand étonnement de Nora, Mademoiselle Revelstock entra. Elle sourit à sa secrétaire et son regard se posa sur l'écrin que celle-ci donnait toujours à la main. Puis ses yeux se portèrent vers l'inspecteur.
« Ah, voici Monsieur Long. Est-ce lui le coupable ?»
Nora ouvrait déjà la bouche pour répondre, mais le jeune homme la prévint.
Oui, Mademoiselle Revelstock, j'ai eu tort de faire tant de mystères et l'heure est venue de vider mon cœur. Cette bague a été dans ma famille pendant des années. Mon oncle l'acheta à Copenhague en 1862. Les yeux de Mademoiselle Revelstock ne scièrent pas, mais son visage devint soudainement pâle, d'une pâleur particulièrement comme terreuse et qu'il vieillissait tout à coup.
Chapitre 15. Nora put croire, en l'espace d'un instant, que Mlle Revelstock allait s'évanouir. La vieille dame avait chancelé, mais par un effort de sa volonté de faire, elle parvint à sourire.
« Tiens, dit-elle, comme cela est donc curieux !»
Arnaud la regardait intensément. Elle ne parvenait pas à détourner ses yeux de ses deux yeux gris.
« Vraiment très curieux !» répéta-t-elle.
Elle parlait très lentement et on sentait qu'elle essayait de dissimuler l'émotion que les derniers mots concernant la bague avaient éveillé.
« Et vous l'avez envoyé à Nora. Oh, c'est vraiment très aimable à vous, Monsieur Long. »
Nora restait debout, regardant tour à tour l'un et l'autre,
ne pouvant comprendre ce que signifiait l'extraordinaire mensonge de Long. Elle était parfaitement certaine qu'à elle au moins il avait dit la vérité. Il n'avait pas envoyé la bague. Mais pourquoi inventait-il cette histoire? Quoi qu'il en fût, l'effet de cette invention sur Mademoiselle Revelstock était considérable. Jamais celle-ci n'avait paru aussi violemment émue. « Voulez-vous passer un instant dans mon studio, Monsieur Long ?» dit enfin la vieille dame. L'autre eut une brève hésitation, puis accepta, tandis que Mademoiselle Revelstock poursuivait. « Je voudrais dire un mot à Mademoiselle Sanders avant de la quitter. J'aimerais savoir si elle n'est pas gênée d'accepter de vous un tel présent. » Elle regardait fixement la jeune fille, qui se troubla et répondit « Mais en effet, je crains qu'il me soit impossible d'accepter un cadeau si magnifique. » Elle tendait l'écrin vers Long et, là encore, elle eut une surprise. D'un geste rapide, l'inspecteur prenait la bague et la faisait glisser dans sa poche en disant précipitamment « Hélas, j'avais raison de supposer que vous ne l'accepteriez pas. » Et se tournant vers Mademoiselle Revelstock, « Je suis à vos ordres, mademoiselle. » Ils gagnèrent le salon voisin, s'assirent, et le silence s'établit entre eux pendant que la vieille femme cherchait une entrée en matière. Elle se décida enfin. « Évidemment, je me sens responsable de Mademoiselle Sanders. Et lorsqu'on lui envoie un cadeau aussi important, j'ai un peu le droit, ayant de vieux principes, de demander. » Elle hésitait à continuer, et il le fit pour elle. « Oui, de demander quelles sont les intentions du donateur. » « Rassurez-vous, elles sont parfaitement honorables. Mademoiselle Sanders est une jeune fille charmante. Elle me plaît beaucoup. Cependant, j'avoue qu'en lui envoyant cette bague, j'ai été un peu vite. » Le regard de Mademoiselle Revelstock ne quittait pas celui de Long. « Vous êtes un gentleman. » Il n'y a aucune raison pour que vous ne courtisiez pas ma secrétaire. La seule chose qui me semble étrange, oui, c'est que je lui envoie déjà un présent d'une aussi grande valeur. Eh bien, je vais vous expliquer. Figurez-vous que mon oncle... Oh, laissons cela, monsieur. L'histoire de votre famille m'est indifférente. Les couleurs revenaient sur son visage, et deux taches roses renaissaient sur ses joues. Tout ce que je désire savoir est quelles sont vos intentions, vos sentiments concernant Mademoiselle Sanders. Êtes-vous amoureux d'elle? Le sourire de Long s'épanouit. Je vais être très franc, Mademoiselle Revelstock, dit-il. Je n'aime pas votre secrétaire, et il y a peu de chances que j'en tombe amoureux. D'autre part, il n'est rien que je redoute autant que le mariage. Mais alors, cette bague, reconnaissez qu'il m'est difficile de vous comprendre. J'avais l'impression que vous étiez très attaché à cette petite. Montrez-moi donc l'écrin, voulez-vous? Elle avait formulé cette demande très calmement. Il tira l'objet de sa poche et le lui passa. Avec le même calme, Mademoiselle Revelstock se dirigea vers son coffre-fort, l'ouvrit, y déposa la bague et referma vivement la porte de bronze. Voyez-vous, il vaut mieux que je garde ce bijou jusqu'à ce que vous fassiez plus ample connaissance avec Nora et que vous soyez décidés l'un et l'autre. Elle s'était levée, elle offrit sa main droite. Bonsoir, monsieur Long. Et bonne chance. Il prit la main tendue. Il regardait cette femme avec admiration. Vous irez à Hertz's? Demanda-t-il d'un ton détaché. Oh, si j'étais vous, je m'en abstiendrais. Une lueur amusée
passa dans les yeux de son interlocutrice. « Vraiment, dit-elle, tiens, c'est justement le conseil que j'allais vous donner. » Chapitre 16. Un certain nombre de documents comportant des renseignements nouveaux attendait Long sur son bureau de Scotland Yard. Il donna des ordres pour complément d'information. Puis, ayant expédié à droite et à gauche quelques limiers dont il connaissait le savoir-faire, il rentra chez lui. Sa voiture, où se trouvait déjà sa valise, stationnait devant sa porte. Il téléphona à Marlowe et apprit que M. Monkford était déjà parti pour Hertsey's. Suivant son habitude, il s'y rendait 2 jours avant l'ouverture du championnat de golf. Monkford était accompagné d'un personnage que Long connaissait bien, le sergent Rouche de la préfecture. Arnold mit ses gants, remonta le col de son imperméable, car le temps était pluvieux, et donna un dernier regard à son appartement. Il aperçut une enveloppe sur la table. Il appela son domestique. « Qui a apporté cette lettre et à quel moment ?»«
Oh, tout juste avant que vous n'arriviez, monsieur. Je n'en sais pas davantage. J'ai trouvé le pli dans la boîte aux lettres et je l'ai déposé sur votre table. »
L'adresse était écrite au crayon, d'une écriture maladroite. Il rompit le cachet encore humide, tira une feuille de papier graisseux et lut « N'allez pas à Hertsey's ». Rien d'autre. Long retourna la feuille plusieurs fois, puis la serra avec soin dans son tiroir. La pluie tombait à torrents. Le chauffeur avait fermé la voiture.
« Je n'aurai pas besoin de vous !» lui dit Arnold.
L'homme parut surpris. « Monsieur a changé d'avis ?»«
Oui, vous avez une femme et des enfants. J'aime bien ne pas vous emmener. »
Lui-même prit le volant et démarra à toute allure. Quand il arriva à Hertsey's, la pluie n'avait pas cessé. Le hall de l'hôtel était plein de monde, quoique la grande semaine ne dût commencer que 2 jours plus tard. Long se dirigea vers le bureau de réception et salua aimablement la jeune fille qui s'y trouvait. Mademoiselle Cravel n'avait évidemment pas souffert beaucoup de sa désagréable aventure de l'autre nuit. Une simple robe noire lui seyait à ravir.
« Monsieur Monkford vous attend, » dit-elle. « Vous connaissez son appartement. »
Il regarda à droite et à gauche et dit à mi-voix
« Au fait, j'ai une question à vous poser. Qui paye ma note ici ?»«
Mais monsieur Monkford, naturellement. »«
Diable ! Mais voilà qui est fort bien. »
Monkford était de la meilleure humeur du monde. En venant, il avait découvert 4 gobelets anciens de Bristol qui venaient de ranger sur une étagère.
« Vous savez, dit-il en apercevant Long, le destin noir est un faux. Oh, je le dirai à Mlle Revelstoke quand elle arrivera. »
« Le destin noir ? » Arnold avait complètement oublié l'existence de la petite négresse.
« Oui, un faux, une copie allemande. »
Bettman s'en est aperçu tout de suite. Le maître d'hôtel entrait pour desservir, car Monkford avait dîné dans son petit salon. Quand il fut sorti, Long se décida à poser une question qui le tourmentait depuis quelque temps. « Mademoiselle Revelstoke a-t-elle une grosse fortune ?»«
Oui, » dit Monkford,
hésitant comme tout banquier le fait, lorsqu'il s'agit des affaires d'un client. « Elle est plutôt riche.
Elle vit simplement, mais ses revenus sont importants. »«
Combien ?» Mais Monkford se refusait à préciser.
« Oh, je me suis occupé de son compte il y a longtemps. alors même que je n'étais pas encore banquier à Londres. À une certaine époque, ses dispositions étaient énormes. Je crois bien qu'elle gérait aussi la fortune de son frère. Mais lorsqu'elle transféra son compte de province à Londres, il faillit perdre sa clientèle. Elle voulait déposer son argent chez votre père, mais, chose étonnante, votre père refusa de s'occuper de ses affaires. Elle avait alors près d'1 million à son crédit. Long réfléchissait que peu de banques eussent laissé échapper une pareille occasion. Un autre point troublait le détective. Dans leur conversation au sujet de Mademoiselle Revelstock, l'autre soir, Sir Godley ne lui avait nullement parlé de cet incident. Maintenant, Montfort donnait quelques signes de nervosité. Son calme l'avait quitté. Il tressaillait au moindre bruit. Il avoua qu'il n'avait pu dormir au cours de la nuit précédente. Au moment où Long allait prendre congé, il demanda si Mademoiselle Revelstock serait accompagnée de sa jeune secrétaire. Ah, vous parlez de Mademoiselle Sanders? Oui, c'est une charmante fille. Et il répéta à deux reprises, comme pour lui-même, oui, charmante, charmante. Brusquement, en changeant de sujet, quand elle arrive demain, je crois que vous n'aimez pas Crowley. Bon, il est difficile d'avoir beaucoup de sympathie pour un être qui paraît aussi nul et qui ne sait que faire pousser des roses. Le banquier rit doucement. Oh, Crowley n'est pas un mauvais garçon. Il ne manque d'ailleurs pas de courage. Vous vous souvenez de la façon dont il s'est précipité sur Shelton? Oui, je me suis souvent demandé ce qu'il faisait là à ce moment. Tout en parlant, le détective avait examiné les serrures. Rassuré sur ce point, il se retira dans sa chambre, où il entreprit d'inspecter toutes choses, ne négligeant même pas la précaution chère aux vieilles gens de regarder sous le lit. Ses fenêtres avaient vue sur un petit jardin qui s'étendait parallèlement à la maison. Il verrouilla la porte communiquant avec le salon, ferma à clé la porte de la salle de bain. Bien que cela ne semblât nullement nécessaire, cette salle étant construite sur le plan américain ne s'éclairant que par l'électricité du plafond. Il mit la clé dans sa poche et descendit trouver le directeur avec lequel il entreprit dans l'hôtel une sorte de ronde. Réellement, monsieur Long, prévoyez-vous quelqu'événement fâcheux? La maison sera pleine à craquer la semaine prochaine et Itzis ne survivrait pas à un scandale. Long le regarda ironiquement. Oh, Itzis suivit déjà pas mal de scandales, à moins que ma mémoire ne me trompe. Non, je ne parle pas de ce scandale, ce genre de scandale, dit vivement le directeur. Non, s'il y avait un drame, un crime, l'hôtel serait ruiné. N'ayez crainte, M. Cravel, nous ferons tout pour éviter une tragédie. Le lendemain, qui était un dimanche, Arnold passait dans le hall vers le soir quand il rencontra Jackson Crayley, qui, traversant la pièce, lui tendit une main molle. « Oh, quel sale temps !» dit-il languissamment. « Pourquoi ne suis-je pas allé à Deauville ? Le golf, après tout, est un jeu imbécile. » Long le vit sourire en tournant la tête vers quelqu'un qui passait derrière lui. C'était Alice Cravel. « Jolie fille, qui ne manque pas de distinction. Au fait, j'aime autant vous dire que je ne viens guère ici que pour elle. »« Ah oui, c'est une de vos amies ?»« Oui, » dit Crowley, en essuyant son monocle. « j'en suis assez fier. »« Tiens, mais il me semble l'avoir rencontrée chez vous à Marlowe. »« Vous avez prétendu alors qu'elle venait comme visiteuse pour voir votre jardin. Vous aviez même l'air excédé. Vraiment, que voulez-vous, mon cher ami? Je ne suis pas de ceux qui confient leurs sentiments à n'importe qui. Maintenant que je vous connais mieux, je vous avoue franchement que je suis très attaché à cette petite. Et comment vont ces messieurs de Scotland Yard? Mon Dieu, ils supportent très bien mon absence. Avez-vous vu Monkford? Ah oui, c'est vrai, il est ici. Oh, je lui dois donc une visite. Un banquier est une relation qu'il ne faut pas négliger, n'est-ce pas? Il avait parlé comme en se moquant. Il changea de ton pour dire « Oh, j'ai une chambre bien désagréable cette année. Cette affreuse Rivelstock a retenu mon appartement habituel. Je croyais que vous aviez beaucoup d'amitié pour Mademoiselle Rivelstock. Moi, je la hais. Je ne connais personne qui soit plus désagréable. Elle est incapable de parler de quoi que ce soit sans se déchirer à belles dents. Vraiment, je la déteste. » Il y avait quelque vérité dans ce jugement qu'il venait d'exprimer avec véhémence. Plus tard, dans la soirée, le détective remarqua que Crayley avait engagé une grande conversation avec Mademoiselle Cravel. Il se demanda quel sentiment pouvait bien attirer vers cette jeune femme, au type un peu vulgaire, un homme élégant dont l'existence n'était faite que de snobisme et de convention. Jamais un dimanche ne parut si long aux policiers que le jour suivant. Il sortit le matin avec Monkford et joua fort mal au golf. L'après-midi fut une véritable épreuve de patience. Il comprit tout à coup que le temps ne lui semblait si lent à s'écouler que parce que Nora Saunders devait arriver le lendemain. C'est alors que commencerait la période dangereuse. Le ciel était souriant quand la limousine de Mademoiselle Rivelstock s'arrêta devant le porche de l'hôtel. Cravel était là pour la recevoir. Et vraiment, la présence de l'inspecteur semblait superflue. Nora avait aperçu celui-ci bien avant l'arrêt de la voiture. « Soyez la bienvenue à Hersey's, » dit Long avec un plaisant sérieux. « Je représente la municipalité et je viens vous offrir mes compliments. Je parie que vous ne savez même pas le nom de la commune à laquelle appartient l'hôtel. » Les deux jeunes gens riaient en se regardant. Mais Nora dut suivre Mademoiselle Rivelstock et ne se retrouvèrent qu'après le dîner et pour quelques minutes seulement. Enfin arriva le jour qui marquait l'ouverture du grand match. L'hôtel était absolument comble. La pelouse était peuplée de tentes aux couleurs claires qui abritaient des tables à thé. Le hall ressemblait par son animation à un grand magasin un jour de vente annuel. Il eût été impossible de surveiller tant d'allants et venants. Mais les lignes s'étaient entourées de barrières et on ne pouvait y pénétrer que par deux entrées où des policiers étaient placés avec l'ordre d'éloigner tout personnage équivoque. D'ailleurs, aucun incident ne se produisit. Monsieur Henry arriva le mercredi et Long se mit à rire en le voyant descendre de voiture. Quel être étrange! Venir jouer au golf avec un chapeau de forme. Il se trouvait alors à la fenêtre du salon de Monkford. Qui est-ce? Demanda le banquier. Lui, Henry, l'avocat de Mademoiselle Rivelstock. Vous ne le connaissez pas? « Fiche !» dit Monkford, « mais c'est un avocat de grand avenir !» Monkford, qui était très répandu dans la société mondaine et artistique de Londres, recevait beaucoup dans son appartement. Il ne quittait guère l'hôtel. Les jours se suivaient sans incident. Peu à peu, Monkford retrouvait sa quiétude habituelle. Il fut élu président du comité des fêtes et se jeta, corps perdu, dans l'organisation d'un bal costumé qui devait clore la grande semaine. Un soir, en regardant par sa fenêtre, Long vit le banquier qui allait et venait dans le jardin avec Henry Crowley. Il était évident que le sujet de leur conversation était exceptionnellement sérieux. Soudain, Monkford leva les yeux et aperçut Arnold. Mais il ne lui adressa pas le salut amical que prévoyait celui-ci. Quelques minutes plus tard, Long entendait la voix des trois hommes dans le salon qui avoisinait le sien. Puis la porte du couloir se referma et le silence s'établit. Le policier supposa que Monkford se trouvait seul et il alla le trouver. « Quelque chose ne va pas ?»« Non, rien, » dit Monkford brièvement. « Dites-moi, Long, je désire vous voir après le dîner. »« Mais pourquoi pas maintenant ?»« Non, non, ce n'est guère pressé. » Cela vous concerne ?
Oh, dans un sens, oui, fit sèchement l'autre, mais la chose intéresse surtout un de mes amis.
Bon, je ne puis encore rien dire. Venez me trouver immédiatement après dîner et nous discuterons. Le détective sortit en proie à une vague inquiétude. Il rencontra Crowley dans le hall et le questionna. Mais que diable avez-vous raconté à Monkford pour l'avoir ainsi affecté? John Crowley parut très surpris. « Bon, nous n'avons parlé que de choses purement personnelles. Si vous n'en êtes pas informé, je ne peux rien vous dire, j'ai donné ma parole. » Il y avait dans l'allure de Crowley une nuance indéfinissable. Il affectait une raideur qui lui était peu habituelle. L'inquiétude de Long augmenta. Il regrettait d'être trop peu lié avec Henry pour songer à l'interroger. En général, il dînait avec Monkford, mais ce soir-là, le banquier lui fit parvenir un bref mot d'excuse par son valet de chambre. Il essaya de trouver une indication en se remémorant chacun des événements de ces derniers jours. Mais ce fut en vain. Rien ne justifiait ce changement soudain. Il vit Monkford pendant le dîner, assis à une table près de Mademoiselle Rumelstock et de sa jeune secrétaire. Il l'observa sans résultat. Un instant, il rencontra les yeux de la jeune fille et se souvint tout à coup qu'il n'avait pas eu l'occasion de lui expliquer son mensonge au sujet de la bague. Mademoiselle Rumelstock lui adressa un signe de tête gracieux. Elle avait dans le regard une expression de triomphe malicieux qui crispa Long intérieurement. Il prit son café dans le hall. Monkford apparut alors pour le prier de monter chez lui. Le ton du banquier décelait une sorte de menace. Long attendit 5 minutes, puis il prit l'ascenseur et pénétra dans le salon du banquier. La pièce était vide, mais il entendait la voix de l'autre qui téléphonait dans la chambre voisine. « Allô, allô, qui a ?» À ce moment, Arnold entendit une détonation, puis le bruit d'un corps qui tombe. Il se précipita sur la porte. Elle était fermée à clé. Il sortit pour essayer de passer par la porte de la chambre donnant sur le couloir, mais celle-là, pas plus que l'autre, ne livrait pas passage. Elle était en chaîne solide et elle résistait à ses efforts. Craveux arrivait en courant. Son visage exprimait la consternation. « Mais qui a tiré ?» fit-il d'une voix terrifiée. « Ouvrez la porte !» ordonna le policier. Le directeur fouilla ses poches. « Attendez, je n'ai pas de passe-partout. » Il se précipita vers le rez-de-chaussée et revint au bout d'une minute avec une clé qu'il introduisit d'une main tremblante dans la serrure. La porte s'ouvrit. Monkford gisait à terre, replié sur lui-même, la face contre le tapis, les mains serrant le récepteur du téléphone. Dans la chambre, une âcre senteur de poudre emplissait l'air. Chapitre 17. Il faut aller chercher un médecin, dit Arnold Long. Il s'est tué? Demanda le directeur. Allez chercher un docteur, faites ce que je vous dis. Laissé seul, le détective ferma la porte. Il y avait d'autres clés dans la serrure que celle du directeur qui pendait à l'extérieur. Il traversa la salle de bain qui était fermée, ainsi que l'autre porte du salon. Les fenêtres étaient hermétiquement closes, car la nuit était fraîche. Au-dessus des fenêtres s'ouvraient trois petits postes d'aération qui n'auraient pu donner passage à un chat un peu replet. D'ailleurs, aucune marque d'échelle, aucune trace de pas, rien. La penderie était vide. Le lit intact. Long sonda les panneaux des murs, mais il savait que ce travail serait inutile. Pourtant, l'arme qui avait tué Joshua Monkford avait été tenue à quelques centimètres de sa tempe. Long respirait péniblement. Un homme assassiné gisait là, dans une chambre où personne n'avait pu pénétrer. C'était un fait incompréhensible. Mais réel. Gravel réapparut, toujours courant. Son visage décelait une peur inexprimable. Il parlait à une domestique qui l'accompagnait. « Monsieur Long, dit-il, quelque chose est arrivé dans la chambre de Mademoiselle Sanders. » Arnold le regarda fixement. « Qu'est-il arrivé ?» Ce fut la domestique qui répondit. « Je ne sais pas, monsieur, quelque chose a fait explosion. » Avant qu'elle eût fini sa phrase, le détective avait déjà bondi. À l'autre extrémité du couloir, la chambre de Nora était fermée. Il regarda à travers la serrure et vit une fumée légère qui flottait dans l'atmosphère. Son cœur s'arrêta presque de battre. « Qu'est-ce qui se passe ?» Il sursauta en se retournant. Derrière lui, Nora Sanders lui parlait calmement. « Avez-vous la clé ?» Il lui arracha presque l'objet des mains. Il entra. Il y avait eu en effet une sorte d'explosion. Près de la cheminée, un morceau de papier brûlait encore. « Mais qu'est-il arrivé ?» demanda la jeune fille effrayée. « Oh, peu de choses, dit-il, allez, restez ici. » Ils s'éloignèrent, broussant chemin, vers la chambre de Monkford. Gravel se tenait dans le couloir. Le policier haussa les épaules, et tous deux pénétrèrent ensemble, une fois encore, dans la pièce tragique. Long ramassa le téléphone, l'essuya, et appela le bureau. Mademoiselle Gravel lui répondit d'un ton qui indiquait qu'elle connaissait le drame. Elle parlait à voix basse. Il demanda « Qui a appelé Monkford tout à l'heure ?»« Mais personne, c'est lui qui appelait. » J'ai répondu à son signal et j'ai entendu alors le bruit d'un coup de feu. Le docteur Rocky arrivait. Il se pencha sur le corps et son examen fut bref. « Oh, inutile de vous dire qu'il est mort, n'est-ce pas ? La balle a traversé le cerveau. Oh, je crois que la mort a été instantanée. Le coup avait été tiré de très près. Regardez la brûlure. Suicide ? Cette éventualité avait été la première à se présenter à l'esprit du détective, mais aucune arme ne se trouvait près de Monkford. Il possédait un Browning, que l'on retrouva dans le tiroir du bureau, parfaitement intact et d'ailleurs pas chargé. Arnold se mit alors à la recherche de Crowley. Il n'était pas nécessaire d'être un grand psychologue pour observer que ce dernier connaissait déjà le sort de son voisin. C'est terrible, terrible, dit-il, mais pourquoi s'est-il tué? Il était tellement gai cet après-midi lorsque je lui parlais. Écoutez-moi, Crowley, le jeune avocat et vous, vous étiez avec mon frère cet après-midi. Vous lui avez dit quelque chose qui l'a fortement impressionné. C'est lui qui m'a dit quelque chose qui m'a impressionné, répliqua Crowley brusquement. D'ailleurs, Lord, je suis bouleversé par la mort de ce pauvre garçon, et mes nerfs ne peuvent m'en supporter davantage. Oh, Lord, je ne veux pas discuter avec vous. Peut-être discuterez-vous demain avec le juge d'instruction. Vous me menacez, je crois, mais quand je pense que j'ai sauvé votre misérable vie à Chelmsford. Entendez-moi, Crowley, et comprenons-nous bien. Je ne vous menace pas. Je vous pose simplement les questions que tout policier poserait à n'importe quel honnête homme dans de semblables circonstances. Et j'avoue que tout honnête homme y répondrait immédiatement. Quel était le sujet de votre conversation avec Monkford cet après-midi? Crowley haussa les épaules. Oh, vous feriez bien d'interroger Henry. Pour moi, j'ai l'impression qu'il me faut voir mon avocat avant de vous répondre. Or, quand le policier s'informa de l'endroit où il pourrait trouver le dit Henry, il apprit que celui-ci avait quitté l'hôtel aussitôt après le dîner et qu'il était en route pour Londres.